at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, une émission réalisée et produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Avant de commencer, petit point promo en vous rappelant que notre campagne de financement est lancée. Si vous souhaitez et pouvez nous soutenir financièrement, vous trouverez le lien vers notre Ko-fi dans la description de l'émission ou sur nos réseaux sociaux. En nous aidant mensuellement, vous aurez accès aux émissions en avant-première, même moi ça me fait envie, ainsi qu'aux versions longues et petit à petit à d'autres contenus. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Marion, Mehdi et Tizona. Comment ça va tout le monde ?
Salut, ça va bien, merci.
Salut, ça va et toi ?
Ça va, je suis en train de crever de pollen, mais sinon ça va.
Le sentiment est partagé.
Vous entendez peut-être une voix qui manque dans nos cœurs et qui vous manque dans vos oreilles. C'est Léa qui est hélas retenue au bureau et vous aurez donc droit à sa chronique sous format magnéto. Cela étant, ce mois-ci, nous recevons Anna-Maria Trefoy. Anna-Maria, tu es doctorante au Liège Game Lab à l'université de Liège, comme son nom l'indique, et ton projet de thèse porte sur la création d'une archive féministe du jeu vidéo. Tu es aussi cofondatrice de l'association Pixiel, une association œuvrant pour un gaming plus inclusif, pour laquelle tu streams parfois. Bonsoir à toi et merci d'être parmi nous.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
On veut une archive féministe du jeu vidéo, s'il vous plaît.
C'est en marche.
c'était pas pour toi spécifiquement, t'es pas obligée de porter ça toute seule. Mais globalement, si ça pouvait arriver, ce serait merveilleux. Ça fait super plaisir de te recevoir en tout cas. Et on va commencer avec la première chronique de Tizona qui va nous parler de tags qui cassent des barrières marketing. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Tizona ?
Eh bien, c'est une sacrée histoire. Pas du tout. En général, je préfère plutôt vous parler des personnes derrière les manettes. Mais aujourd'hui, je vais faire une petite entorse et vous parler des grandes entreprises, si ce n'est des géants de l'industrie du jeu vidéo. Alors, promis, ça n'arrivera pas tous les jours. Je préférerais évidemment vous parler de ces entreprises de manière plus critique, moins élogieuse. Mais aujourd'hui, hélas, ce ne sera pas l'angle de la chronique de ce jour. Car comme chaque année, il y a peu, il y a eu la JDC, donc c'est la Game Developers Conference. Désolée, mais il va y avoir beaucoup d'acronymes pendant cette chronique, et je vais tous les faire à la française pour vous éviter d'écorcher vos oreilles. Donc la JDC, c'est le plus grand événement international qui réunit les personnes de l'industrie du jeu vidéo. On est sur un événement qu'on qualifie de métier, autrement dit quelque chose qui est dédié aux travailleuses du jeu vidéo et non plus du divertissement, du commercial comme le 3 par exemple. Donc ça va être des conférences sur des retours d'expérience, des présentations de technologies, des jeunesses de concepts de game design et toute autre joyeuseté. Autrement dit, ça reste un événement qui a un public très spécifique et surtout qui n'est pas vraiment relayé par les grands médias d'information du jeu vidéo. Alors c'est un petit détail sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Alors cependant, c'est lors de cet événement qu'une curieuse collaboration a pris forme. Microsoft, Nintendo of America, Google, Electronic Arts et Ubisoft ont annoncé, pas main dans la main mais presque, avoir développé concomitamment aux côtés de l'ESA un projet, l'Accessible Games Initiative. Alors l'ESA, pour information, c'est l'association à qui on doit entre autres le système de classification de l'ESRB, l'équivalent des PEGI chez nous, mais en Amérique du Nord. Donc peu de temps après l'annonce de cette initiative, Square Enix, Riot, Warner Bros, etc. ont rejoint donc ce projet. Je pense qu'il y a eu d'autres studios qui s'y sont ajoutés depuis cette annonce, mais je n'en sais pas plus pour l'instant, sachant que ce projet est ouvert à n'importe quel studio qui souhaite s'y inscrire. Alors Sony n'a mystérieusement pas encore communiqué à ce sujet, mais on sait que l'entreprise avait bien participé aux discussions et à la fondation du projet. Alors je vous en parle, mais c'est quoi l'Accessible Games Initiative ? Alors il s'agit d'un projet qui est en plusieurs volets, qui a pour but d'uniformiser des actions d'accessibilité entre différents studios constructeurs de jeux. Le premier jalon, ça a été l'émission d'une liste de 24 tags qui couvrent des options et mécaniques d'accessibilité départagées en 4 catégories. Donc on va avoir l'audio, le gameplay, tout ce qui est lié aux inputs et la partie visuelle. Il y a un site internet qui est déjà accessible où on peut voir les tags qui y sont répertoriés. Alors, autrement dit, 24, c'est assez menu, c'est très généraliste, on ne va pas se le cacher, mais c'est un début et c'est voué heureusement à se développer. Donc le système de tags, c'est pas forcément nouveau, évidemment on connaît ceux de Steam, mais ces derniers n'ont jamais couvert jusqu'alors des options d'accessibilité. C'était laissé à la discrétion des équipes de développement qui avaient le choix d'indiquer ou non les features dans les descriptions du produit. L'objectif serait donc que les studios impliqués dans le projet utilisent tous le même verbiage par ces tags dans leur communication et en particulier sur les pages d'achat de jeux, car c'est toujours mieux savoir avant et pas après si un jeu est jouable. Donc, concernant ces tags d'accessibilité, Microsoft faisait déjà ça dans son shop avec des tags dans une catégorie qui était dédiée et à part et qui pour le coup couvrait un certain nombre de sujets différents. Ubisoft a depuis quelques années des pages de produits très denses au sujet de ses features également. Par contre, pour Nintendo, c'était vraiment, mais vraiment pas ça du tout. Donc, voir ces constructeurs porter ensemble cette initiative, c'est une avancée qui est assez majeure. Je dirais pas historique, mais quand même pas loin. Car le manque de porosité entre les consoles, les studios, c'est un énorme frein à la production, à l'évolution d'outils liés à l'expérience utilisateur et donc d'accessibilité. Alors, est-ce que pour autant ces entreprises seront obligées d'appliquer cette initiative ? Alors non, on n'est pas encore sur des normes à la RGAA, donc le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, ou des WCAG, donc le Web Content Accessibility Guidelines, donc tout ce qui est lié à des normes d'accessibilité qui imposent des règles pour le web. On est sur quelque chose qui est plus facultatif, donc chaque entreprise pourra gérer comme elle veut l'utilisation partielle ou complète ou absente de ces tags, le but étant surtout de lisser les termes utilisés. Alors, j'ignore quelles seront les prochaines étapes de cette initiative, comme elle est très récente, outre l'enrichissement déjà promis des tags proposés, mais la porosité entre les studios et constructeurs, ça ouvre quand même un certain nombre de perspectives connexes. Contrairement à la fameuse image d'ouverture des Game Awards de 2018 que vous avez peut-être ou pas en tête, où on voyait Reggie Fils-Aimé, anciennement de Nintendo, Sean Layden de Sony et Phil Spencer de Microsoft, cette image où ils posaient ensemble devant des millions de spectateurs pour la belle image des grandes marques rivales réunies, on est donc sur une collaboration là, a priori, un peu plus discrète. Mais je n'irai pas jusqu'à dire humble pour autant. Car est-ce que pour autant c'est désintéressé et profondément altruiste ? Probablement pas ou pas seulement. On pourrait dire que ça s'inscrit dans des démarches engagées par des départements spécialisés dans des questions d'inclusivité auprès de certaines entreprises, notamment chez Microsoft, qui sont très proactifs dans ce domaine, ce qui est vrai. Cependant, malgré l'événement d'une telle collaboration, ça profite bien sûr aussi aux marques par l'image qu'elles renvoient. Je tiens à conclure cette chronique par le fait que je n'avais aucunement l'objectif de faire l'apologie des géants qui alimentent des schémas hyper-capitalistes, toxiques, nuisibles à l'industrie et à ses actrices, qui n'hésitent pas à jeter sans vergogne des milliers de personnes dehors de manière continue depuis quelques années maintenant. Car faire de l'humain comme ce genre d'initiative, c'est très bien, mais il faut avoir une politique cohérente derrière. Et je le répète, mais sans le travail, souvent gratuit, d'énormément de personnes concernées, le domaine de l'accessibilité n'aurait jamais bougé. C'est donc plutôt ces personnes, plutôt que ces entreprises, qu'on devrait remercier, elles qui ne cherchent ni lumière, ni événementiel.
Merci beaucoup. Merci à Tizona pour cette chronique. J'avoue que j'étais pas spécialement au courant. Il s'est passé plein de choses pendant cette GDC, et effectivement... À la fois, ça fait plaisir, à la fois, on se dit, mais qu'est-ce que ces grosses boîtes, elles y gagnent, vraiment ? Enfin, on se doute qu'il y a quelque chose de flou dont on n'a pas forcément connaissance. Elles ont forcément quelque chose à y gagner, quoi. Est-ce que c'est juste, comme tu le sous-entendais dans le titre de ta chronique, que ça lisse leur marketing également ? Est-ce que tu as des suppositions là-dessus, d'ailleurs ? Est-ce que, pour toi, ton opinion personnelle, ce serait quoi, exactement ? Pourquoi, en fait, ces entreprises feraient ça, vraiment ?
Je pense que même s'il y a eu ce côté de se présenter un peu de manière égalitaire entre toutes les entreprises, moi, je me demande si... Enfin, Microsoft a quand même été très présent depuis on n'est pas encore à une dizaine d'années, on va dire depuis environ 2017, ils sont très présents sur la scène JV en tant qu'un petit peu mécène de l'accessibilité. Donc je pense que leur être solidaire, c'est plutôt profitable pour l'image de ces marques, de ces studios. J'oserais espérer qu'il y a un petit côté de prise de conscience, de se dire voilà, qu'il y a peut-être une méthodologie qui est assez facile à appliquer. Je pense qu'il y a toujours malgré tout le côté de l'image, hein, l'inclusivité, c'est quelque chose sur lequel les marques aiment bien communiquer, même si derrière, enfin, sans forcément aller très très loin, on sait que c'est pas très très glorieux. Voilà, la question qui m'interrogeait, c'était l'absence de Sony et une des personnes qui a fait un article dessus, alors je ne sais plus sur quel site et je m'en excuse, qui a pris contact avec et qui n'a pas eu de réponse de la part de Sony, et c'est ça m'interroge parce qu'ils étaient là vraiment, semble-t-il, avec tout le monde au début, et donc ils n'ont pas communiqué par la suite. J'espère que ce n'est pas dans le but de eux-mêmes créer un label, parce qu'ils en sont tout à fait capables.
C'est vrai.
Mais je ne verrais pas l'ambition, mais c'est par exemple, en termes d'accessibilité, ils ont toujours voulu faire un peu bande à part avec leur contrôleur, etc. Mais je ne sais pas du tout. Donc, bon, ça date d'il y a à peine quelques jours. Donc peut-être que ça va évoluer, mais je suis assez perplexe.
Ouais, je comprends. Et pour revenir sur Microsoft, deux secondes, c'est vrai que c'était eux la première manette accessible qui avait fait grand bruit, dont j'ai oublié le nom. Enfin, accessible en tout cas, pluggable, branchable à d'autres manettes, etc. Vraiment accessible dans le sens modulable. C'est ça que je cherchais. Qui permettait effectivement d'élargir le public. Et cette année à Paris Games Week, moi j'avais été invitée à une démonstration aussi de leur nouveau système d'accessibilité. Il n'y avait rien de foufou, à part que effectivement, comme tu disais, ça se base sur le travail gratuit de personnes concernées. Ils se mettent à travailler avec les Fab Labs pour développer des outils vraiment physiques qui permettrait d'améliorer l'accessibilité des jeux. Et il y a un autre, à mon avis, phénomène qui est intéressant pour les entreprises pour se lancer dans l'accessibilité et être bien vue, etc. C'est aussi que la population qui joue aux jeux vidéo vieillit, les enfants. Et petit à petit, bah, mine de rien, on va plus pouvoir utiliser nos consoles, nos manettes comme avant, quoi. Donc il va falloir que l'industrie se mette à jour, puisqu'on va représenter une certaine part de la population joueuse. Voilà, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Merci beaucoup en tout cas pour cette chronique super intéressante. On verra où tout cela nous mène. Et là, je vais faire un exercice assez étrange, une gymnastique qui est de me lancer moi-même, lancer ma propre chronique. Effectivement, tu parlais un peu de la toxicité. Dans les entreprises, moi j'en connais une qui est très très toxique, et c'est français, messieurs, dames, qui est vraiment réputée pour ça. Mais avant ma petite intro, et oui, c'est à mon tour de reprendre les chroniques, et comme on ne change pas une équipe qui marche, j'ai continué à faire ce que je faisais l'an dernier, c'est-à-dire me rendre sur des salons et des festivals de jeux vidéo grand public pour poser des questions sur des faits d'actualité assez spécifiques, et voir comment les vrais gens du vrai jeu vidéo ont reçu ces informations. Ouais, je suis cette personne qui parle au français, quoi. Tout ceci à l'aide d'un micro, d'un carnet et d'une super salopette. Pour ouvrir le bal, j'ai fait comme l'an dernier, je me suis rendue sur un événement bien connu de toutes et tous. Je vous laisse deviner avec ce son d'ambiance.
LS depuis le canapé, après nos 24 heures sur place en famille, on continue de suivre ce magnifique événement. On achète le t-shirt et on donne.
Elle dit qu'elle avait 5 euros, qu'elle dit « It's dangerous to go ».
Et oui, j'étais à Spidon, c'était du 27 février au 2 mars 2025 au Centre des Congrès à Lyon, et ça tombe bien parce que Lyon, c'est chez moi. Et j'ai questionné des gens au hasard sur un fait d'actualité qui était sur le point d'arriver. J'ai même un peu gamifié le truc puisque j'ai commencé par montrer 3 photos de personnes clés de l'actualité de ce début d'année et poser la question, est-ce que vous reconnaissez les 3 personnes que je présente ? Voici les réponses.
Est-ce que... il y a quelqu'un qui... y a une tête qui vous parle là-dedans?
Non.
Du tout.
Il y en a aucun qui... Non, non, non. Je pourrais dire pour la blague Notch, Hideo Kojima et Michel Ancel, mais non, c'est aucun.
Oui.
Ah.
Non.
Celui du milieu, c'est pas un humoriste de On ne demande qu'à en rire là ?
Alors non, malheureusement, ce n'était pas un humoriste de On ne demande qu'à en rire. Je sais pas si c'est mieux ou si c'est pire. Si je vous montre cette personne, par exemple...
Aucune idée, mais je suis très nulle pour les visages.
Le premier me dit quelque chose, mais...
Le premier te dit quelque chose ?
C'est pas quelqu'un de lui ?
Si ! Bravo !
Je sais pas qui, hein, par contre.
Alors, effectivement, je vous mets pas le troisième, parce que si vous reconnaissez pas les deux premiers, le troisième, il a une vieille vidéo, une vieille photo, juste LinkedIn, à moitié floue, ça sert à rien. Effectivement, il s'agit de Serge Ascouette, Tommy François et Guillaume Patrux, et ce sont des hauts cadres d'Ubisoft. Et là, c'est peut-être des noms qui vous rappellent des souvenirs. Ces trois personnes, respectivement numéro 2 de la boîte, vice-président du service éditorial et game director, sont mises en cause dans des affaires de harcèlement assez graves qui avaient été dévoilées d'une part sur Twitter, puis par les journalistes Erwan Cario et Marius Chapuis dans le journal Libération. Vous vous rappelez peut-être de cette une assez choquante où on voyait une manette de jeu vidéo, je crois que c'était une manette de PlayStation, sortir d'une braguette de pantalon. En fait, cette image, elle n'est pas que percutante, elle est également très pertinente, puisqu'on parle de... Non, attendez, je vais laisser mes victimes piffer.
Moi, deviner, peut-être quelque chose de pas bien.
Oui, en général, quand tu vas au tribunal.
De type harcèlement au travail, etc.
Harcèlement moral et sexuel, globalement.
Incroyable.
Incroyable.
Au hasard, hein, des agressions sexuelles, étant donné que c'est... le point commun, c'est que c'est des hommes blancs, hein, donc ça part mal, quoi.
Ça part mal, oui. Alors, comme ça a l'air un peu flou, tout ça, je vais vous présenter ces Riri, Fifi et Loulou de l'angoisse. Je me permets d'ailleurs ce qu'on appelle un trigger warning, hein, dans le milieu. Je vais lire des témoignages de comportements absolument immondes. Si c'est trop pour vous, je vous invite à avancer l'écoute de une minute, peut-être deux, grand maximum. Serge Ascouette, d'abord, le plus haut placé du groupe. Je cite un témoignage, ce serait celui qui a rendu possible cette culture toxique. De ce que j'ai lu, il est vraiment décrit comme la reine alien des managers toxiques, en gros. Hein. Le diable s'appuie peut-être en Prada, mais le behemoth qu'on a ici, c'est plutôt en slip français. Et je suis désolée pour cette vision d'horreur. Je cite à nouveau l'article de Libération sur le sujet du 9 mars 2025. Les nombreux témoignages du dossier du tribunal peignent en effet le portrait d'un homme capricieux, outrancier, usant de sa position pour que les autres se plient à ses quatre volontés. Une assistante en congé est expédiée en Bretagne pour récupérer un iPad oublié. Une autre se charge d'organiser la scolarité de sa fille ou les dîners chez lui. À l'une d'entre elles, il dit en lui tendant un mouchoir usagé: tu peux le revendre, il vaudra de l'or à Ubisoft. Une grosse partie de l'enquête est consacrée aux agissements de son assistant, qui se sent autorisé à tout par sa simple proximité avec le roi Ascouette. Accusé d'avoir consommé et revendu de la drogue dans ses locaux, il aurait menacé une assistante avec un couteau, insulté un nombre stupéfiant d'employés, harcelé moralement et sexuellement pendant des années. Il va jusqu'à embrasser par surprise une des directrices des ressources humaines qui décrit la scène à la police judiciaire. Je me mets à crier « ça va pas ?» Serge Ascouette a dit quelque chose comme « ça va, ce n'est que de l'affection !» Donc ça, c'est le big boss. Vient ensuite ce cher Tommy François, l'image que je vous ai mis du mec avec son chapeau qui a l'air... tout sympa comme ça. C'est un joyeux drille qui avait les cheveux rouges. Peut-être si vous regardiez Game One, vous vous souvenez de... C'était un chroniqueur sur une des émissions quotidiennes, je crois. Le cas Tommy François peut être résumé par les conclusions chiffrées du rapport Altaïr, enquête interne menée par un cabinet tiers à la demande d'Ubisoft après les révélations de 2020. 23 témoignages font état de faits d'attouchement corporel. 30 relatent des propos à caractère sexuel et sexiste non désirés et répétés de sa part, 24 témoignages rapportent des agissements sexistes, 18 décrivent des faits de pression morale exercés à l'encontre des collaborateurs. Au total, 60% des personnes interrogées sont soit victimes, soit témoins de comportements inappropriés. Les 40% restants sont pour la plupart des personnes proches de Tommy François et ou de Serge Ascouette. Non, le rapport Altaïr n'a aucun rapport avec Assassin's Creed, mais la blague est valide néanmoins. L'une des personnes interrogées est appelée Laidron. L'autre a le droit à une remarque sur son manteau rouge qu'il aurait décrit comme, et je cite, « un appel au viol ». D'autres citent « les chabites » ou « un poirier » exigé à une jeune femme en jupe. On le dit manipulateur et dragueur, échange de SMS à l'appui. Les stagiaires, c'était un vivier de drague pour Tommy, rapporte à la police judiciaire une ex-employée. Une plaignante raconte comment ce vice-président lance la diffusion d'un film X après l'avoir convoqué pour la mettre mal à l'aise. Elle dit aussi les innombrables remarques sur son physique, les surnoms dégradants comme « connasse » ou « nazi », etc. Peu à peu, c'est une grande partie du service de Tommy François qui s'y met, installant sur son ordinateur des fonds d'écran de Mac Bacon pour la choquer, elle qui est musulmane, avant qu'on ne lui demande au lendemain des attentats du Bataclan si elle est membre de Daesh. Elle souligne l'inertie des ressources humaines, alertée. Elle accuse aussi Tommy François de l'avoir agressé sexuellement en tentant de l'embrasser de force à l'occasion d'une soirée de Noël organisée par l'entreprise. Et enfin, pour conclure, le moins connu des trois, celui dont je ne vous ai pas montré la photo, Guillaume Patrux, je cite toujours l'article de Libé du 9 mars. Présenté comme un petit génie par sa direction, il est décrit dans nombre de témoignages recueillis par les enquêteurs comme un homme impulsif et brutal, capable de mettre des coups de poing dans les murs, de faire mine de lever la main sur ses collègues ou d'agiter un fouet près de leur visage, quand il ne joue pas à brûler les fils des ordinateurs ou la barbe d'un salarié avec un briquet. Un plaignant lui reproche notamment, après un désaccord en réunion, de lui avoir jeté une clé Allen dans les jambes. Une forme d'humour incomprise, se défend Patrux devant la police judiciaire. Bon. Mais avec tous ces témoignages, que s'est-il passé alors le 10 mars 2025 ? Quelle réparation pour le traumatisme de plus de la moitié des personnes ayant osé répondre ? Comment a répondu la justice à tous ces employés insultés, broyés, frappés, épuisés, ligotés, traumatisés, en partie brûlés ? Eh bien, vous le savez peut-être, elle n'y a pas répondu. 2 ans d'instruction pour une audience qui commence par une demande de renvoi de la part des avocats de la défense. En effet, un tiers du dossier aurait été envoyé trop tard pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions. Alors, moi je trouve ça un peu drôle, mais c'est un rire un peu nerveux, je pense, parce qu'en fait, du coup, ils estiment qu'ils ont des mauvaises conditions de travail, les avocats de la défense. Enfin, vous me suivez, c'est un peu trop... Non, c'est pas... Ouais, je suis un peu trop cynique, ok. Je deviens aigrie, donc je vous propose de retourner 2 secondes à Spidon pour demander aux visiteuses si elles pensent que ce procès pourrait changer les choses.
Je trouve que c'est une bonne première étape, entre guillemets. Bon, déjà, ils vont jusqu'à la comparution. Derrière, attendons de voir déjà s'il y a une condamnation. Parce que ça, bon, quel que soit le domaine, de toute façon, c'est quand même relativement rare qu'on ait une condamnation qui suive des comparutions. Et après, peut-être que ça fera changer dans le sens où, si quand même, comme c'est une grosse boîte française, du coup, et qu'il y a quand même une comparution, peut-être d'autres derrière, dans d'autres boîtes, oseront plus de porter plainte ou en tout cas d'en parler et de ne pas se cacher, enfin de honte, etc. Comme dans tous les domaines où en fait les femmes n'osent pas parce que ça peut détruire leur carrière et qu'on leur fout la pression, qu'on leur met la pression.
J'ai entendu parler de tous les déboires qu'avait Ubisoft depuis plusieurs années de toute façon. Puis de toute façon, ils sont limite en train de couler, j'ai l'impression, que ce soit vis-à-vis de leur ambiance de taf ou de la qualité de leur jeu. Après, ces noms-là en particulier, je les connaissais pas. Serge Asquette, en fait, j'ai dû voir son nom passer en faisant des recherches sur un jeu en particulier ou que sais-je, et je vois pas de titre de jeu qui me revient actuellement à l'esprit. Mais bon, c'est chaud quoi. C'est très très chaud. De toute façon, c'est assez triste, je pense, pour Ubisoft. C'est une boîte qui a une grosse réputation, qui a quand même fait des jeux excellents, hein. Faut pas le nier quoi. Et c'est triste de voir que ça tourne comme ça. Et en même temps, c'est bien justement que ça émerge et qu'il se passe des choses concrètes pour empêcher ça quoi.
Alors que les défenseurs des familles des pixels se rassurent, hein, le dernier Assassin's Creed explose les records de vente. Donc oui, parce qu'il y a des gens qui se sont inquiétés de la potentielle mauvaise pub qu'aurait fait ce procès. J'espère que ces gens sont rassurés. Je finirai par le début de l'article de Libération qui a dévoilé l'affaire et qui est tout simplement le témoignage d'une ancienne salariée. Il y a des hommes de pouvoir qui se permettent tout et qui doivent être écartés de l'entreprise parce qu'ils font du mal aux femmes. Et il y a autour d'eux un système global qui cautionne ces comportements et les protège en empêchant tout recours. Un système qui rend impuissant parce que de toute façon, les jeux vidéo, c'est fun, on rigole, on peut tout faire, on peut tout dire car rien n'est grave. Rien n'est trop grave pour eux, effectivement. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant que j'ai mis une super ambiance, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Mehdi, t'avais une question?
Ouais, je me demandais, alors je me souviens du moment où Libé avait sorti son enquête, même plusieurs papiers, je crois. Le procès, du coup, a été renvoyé, mais il rendra son jugement. Mais depuis tout ça, parce que ça fait quand même quelques années maintenant que tout ça a été documenté, raconté, est-ce qu'on sait comment l'entreprise a évolué? Et est-ce que le système a un peu changé? Est-ce que c'est plus sain qu'avant?
Alors ouais, je l'ai pas précisé, mais effectivement, Serge Asquette, il a... Alors ça a commencé en fait à la base par des témoignages sur Twitter, avant les articles. Il y a eu une vague de témoignages, une sorte de MeToo d'Ubisoft, c'est comme ça que c'était appelé à l'époque, qui dénonçait hein, les comportements chez Ubisoft. Et donc il y a eu ça en première vague, on va dire, et juste avant la sortie des articles, il me semble, Serge Asquette a démissionné de lui-même. Tommy François s'est fait licencier, je ne sais plus exactement si c'était avant ou après, je crois que c'était juste après la sortie des articles, sachant que Tommy François a littéralement un article entier de Libération sur lui. Je suis désolée, je rigole, mais c'est complètement nerveux, hein. C'est juste tellement incroyable. Donc lui, il a été licencié, et Patrux également. Asquette, il est parti de son côté, quoi. Après, qu'est-ce qui a été fait en interne? Ben, on ne sait pas trop. On entend plus parler de la santé financière d'Ubisoft que de... Est-ce que les gens vont bien chez Ubisoft?
Bref, en attendant de savoir si les gens d'Ubisoft se portent bien, on va se poser une question fondamentale. Si vous créez des jeux vidéo, comment faire en sorte que vos joueurs et joueuses se sentent bien? Ou plus précisément, comment faire en sorte qu'elles se sentent intelligentes? C'est parti pour la chronique de Léa.
Une fois n'est pas coutume, je vais commencer ma chronique avec une platitude. On aime tous se sentir intelligent. Moi-même, comme joueuse, je suis accro à ce petit pic de dopamine lorsque je perce un mystère ou que je comprends tout à coup un rebondissement avant qu'il ne me le soit révélé. Beaucoup de jeux vidéo essayent de capturer cette émotion, cet instant eureka si satisfaisant, en nous faisant incarner par exemple un détective, comme dans Elle Noire, ou bien encore un avocat, comme dans les classiques Ace Attorney. Petit problème, la grande majorité des joueurs ne sont ni détectives ni avocats de vocation. Comment alors leur faire vivre l'expérience d'en être un et de se sentir très très intelligent? En tant que développeur, on peut penser avoir donné toutes les clés aux joueurs pour qu'ils puissent faire le lien et tirer les conclusions qui nous paraissent, à nous, évidentes, affligés comme nous le sommes par la malédiction de la connaissance. Mais les retours de playtest montrent qu'ils se plaignent souvent qu'on ne les tient pas assez par la main, que si les choses ne leur sont pas dites explicitement, ils sont souvent perdus. Et si une solution pour aider sélectivement les joueurs n'est pas pensée dès le début du développement, on se rabat naturellement sur celle qui coûte le moins cher. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnages comme Atreus dans God of War ou Aloy dans Horizon Zero Dawn, qui nous donnent presque immédiatement la solution des énigmes qu'on trouve sur notre chemin de façon parfois un peu patronisante. Dans ces cas précis, bien sûr, il ne s'agit pas de jeu d'enquête, et on ne s'attend donc pas à ce que tous les joueurs aiment prendre le temps de réfléchir et de trouver la solution eux-mêmes. Plus l'audience cible est large, plus il faut descendre au dénominateur commun le plus bas, tout en évitant l'infantilisation. Un vrai jeu d'équilibriste pour les développeurs. Ainsi, pour vraiment canaliser le rôle de détective, les jeux d'enquête à proprement parler ont habituellement de vraies mécaniques de résolution d'énigmes, tout en guidant les joueurs sur un chemin, plutôt balisée. Ainsi, tous les choix que le joueur puisse faire en incarnant Bigby Wolf dans The Wolf Among Us, ou Cole Phelps dans Elle est Noire, par exemple, vont toujours conduire plus ou moins à la même destination finale. C'est une approche finalement plus narrative que mécanique, et se tromper est souvent peu pénalisant, comme dans Ace Attorney, où débloque simplement une route ou une fin alternative. Les choix se limitent souvent à une séquence spécifique du jeu, sous forme de procès, après une séquence de collecte d'informations souvent linéaire, séquence pendant laquelle le joueur choisit le ou les coupables, ou brandit des preuves pour casser leur défense, comme à la fin de l'excellent Paradise Killer. Ces 10 dernières années, en revanche, ont vu l'émergence d'une approche, ou plutôt d'approche mécanique, au pluriel, qui cherche moins à faire vivre une histoire scriptée, comme une sorte de roman d'Agatha Christie interactif, mais de mettre véritablement à contribution la matière grise des joueurs, quitte à en faire un jeu beaucoup plus niche. Toutes les mécaniques de ces jeux, qui dynamisent le genre, sont construites autour d'un simple concept, celui de l'épiphanie. Ce sont typiquement des jeux dans lesquels on arrive après l'histoire. Dans Return of the Obra Dinn, qu'il fallait bien que je cite, le bateau qu'on investigue est à la dérive depuis bien longtemps, le sort de ses occupants scellé sans que le joueur n'en ait aucun mot à dire. Idem dans The Payne's Creek Killings, dans lequel le joueur explore une ville laissée à l'abandon, ou presque. Le joueur donc, armé de son calepin, doit alors simplement chercher la vérité. Le cas d'Anna Smith, par exemple, est déjà investigué et fermé dans Her Story, un autre classique du genre, mais le joueur va chercher à lire entre les lignes en écoutant entretien après entretien, espérant tirer des conclusions que la police a probablement déjà tirées, et comprendre ce qui s'est vraiment passé. Ces jeux guident aussi le joueur à leur manière, mais pas de façon linéaire. Ainsi, certains mots-clés ne peuvent pas être logiquement découverts immédiatement, ce qui permet au jeu de cacher quelques twists. C'est le cas notamment dans le jeu The Root Resarded, dans lequel on doit reconstituer l'arbre généalogique d'une richissime famille en se plongeant dans des brochures, livres, magazines, photos, biographies, pour y retrouver les secrets bien gardés de tout ce beau monde. Des secrets qui étaient parfois sous nos yeux depuis le début. Return of the Obra Dinn et The Root Resarded valident régulièrement les déductions du joueur. Cette intervention mécanique externe n'est pas tout à fait aussi satisfaisante que le plaisir incroyable de tester une hypothèse qui se révèle vraie dans Outer Wilds, dans lequel on retrace l'histoire d'une civilisation disparue, ici encore, depuis longtemps. C'est le jeu à épiphanie parfait, qu'on peut finir littéralement en 15 minutes montre en main si on sait où aller. Seul obstacle du jeu, c'est ce que le joueur sait du monde qui l'entoure, et chaque découverte le conduit à formuler une hypothèse qui lui permettra de découvrir de nouveaux lieux, qui étaient pourtant accessibles dès le début. C'est d'une élégance incroyable. Tous ces jeux sont en réalité conçus comme des toiles. Chaque lieu ou élément d'information est connecté à au moins un autre nœud. Et c'est comme ça que le développeur, comme une petite araignée industrieuse, conçoit la structure de son jeu, dans laquelle le joueur va se perdre, retrouver son chemin, tourner en rond, puis soudainement, retomber sur ses pattes. Même si le développeur garde ainsi un certain contrôle, le joueur reste libre d'investiguer à son rythme les pistes qu'il souhaite, chaque moment d'illumination lui permettant de révéler un fil de plus de la toile. Pas forcément de grand climax pour beaucoup de ces jeux, à part la satisfaction d'une investigation bien menée, mais on retiendra d'Outer Wilds une des plus belles séquences finales de jeux vidéo que j'ai jamais joué. Alors si vous ne l'avez pas encore essayé, je vous le conseille très chaudement, ainsi que tous les jeux que j'ai cités dans cette chronique. Eureka garantie, parole d'araignée.
Et merci Léa pour cette chronique. En attendant de trouver votre moment Eureka à vous, je vous propose d'adoucir les mœurs, puisqu'il paraît que c'est une de ses vertus. C'est l'heure de la première pause musicale avec Asphodelos, un titre composé par Hidenori Shoji, qui nous vient tout droit de Yakuza Like a Dragon ou Ryoga Gotoku dans sa langue maternelle. We'll be right back.
Vous écoutez Une Heure et des Pixels sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est l'entretien avec l'invité du jour. Mehdi, c'est à toi.
Oui, Queen, merci pour le passage de témoin. Tu l'as présenté en début d'émission. Notre invité aujourd'hui, c'est Anne-Maria Trefoy, doctorante au Liège Game Lab à l'Université de Liège, donc en Belgique. Elle est également cofondatrice de l'association Pixiel, qui œuvre pour un gaming plus inclusif. Bonjour Anne-Maria, merci d'être avec nous dans Une Heure et des Pixels aujourd'hui.
Et encore merci à vous pour cette invitation.
Avec plaisir, je pense que ça va être... très intéressant. On va parler avec toi plus spécifiquement de ton projet de thèse. Tu travailles à créer une archive féministe du jeu vidéo. Comment est-ce que ça t'est venu, cette idée de projet ?
D'une part, ça m'est venu parce que travailler sur les archives, c'est pas quelque chose que j'ai étudié dans mon parcours. C'est quelque chose qu'on m'a offert comme opportunité via le Liège Game Lab. Mais d'une part, moi j'ai fait des études de philosophie, donc j'ai un master en philosophie. Et pendant mes années un peu de souffrance, parce que j'adore la philosophie, mais la philosophie c'est aussi une souffrance, la seule manière de pouvoir garder le cap, c'est de lier avec les choses qui m'intéressaient en dehors de la philosophie, c'est-à-dire les gender studies, le féminisme, aussi lié aussi à mon militantisme sur le côté. Et une des premières étapes qu'il y a eu à ça, c'est que lors de la fin de ma licence, un bachelier en Belgique, j'ai décidé de travailler sur la figure de la sorcière dans les milieux féministes. C'était après le confinement, c'était très... c'était pas très à la mode, mais il y avait un gros mouvement de sorcières. Et grâce à ça, je me suis liée via des lectures et ça m'a beaucoup passionnée. Et ensuite, quand je suis rentrée en master, j'ai créé il y a quelques années un collectif écoféministe que j'ai dû mettre en stand-by parce que ça ne prenait pas. Et j'ai côtoyé des milieux écoféministes français, dont Voix des Terres, qui est un collectif qu'on trouve en Île-de-France. Et j'ai été à un festival qui était un festival La Sève. Et à partir de là, en fait, j'ai écrit un mémoire qui parlait de cet un pouvoir affectif qu'on a, comment dire, quand on est dans les milieux militants ou même dans la vie de tous les jours, on nous dit de mettre nos émotions de côté. Et en fait, ce que je voulais faire à travers mon mémoire, c'est de montrer qu'en fait, les émotions peuvent être un levier pour la lutte et nous permettre de subsister. Mais ensuite, en parallèle de mes études, j'ai travaillé aussi avec le Liège Game Lab. J'ai été auxiliaire de recherche. C'est une autre manière de dire que c'est un job étudiant et c'est plus valorisant. Et j'ai travaillé sur des presses vidéoludiques. Je les ai archivées, je les ai mis en boîte, j'ai fait le déménagement. En me liant avec les gens du Liège Game Lab, mon promoteur, mon directeur de thèse actuel, Björn Olaf Dozo, m'a proposé de travailler sur un fonds d'archives de jeux vidéo japonais, car aussi j'ai vécu un an au Japon quand j'avais 17 ans. Et donc il avait besoin de quelqu'un pour valoriser... s'occuper de ce fonds d'archives qui avait un minimum de connaissances en archivistique, en jeux vidéo, en game studies et en japonais. Et une des conditions à cela, c'est que je fais une thèse. C'était une des conditions de mon financement. Et donc, je me suis dit, OK, je veux faire quelque chose qui est en lien avec ce qui me passionne, qui a un ancrage réel et qui a du sens. Du coup, je me suis dit, je vais faire une archive féministe de jeux vidéo et je vais voir où ça va m'amener. Et ça m'a amené à me rendre compte qu'il y avait une invisibilisation des créatrices dans le monde du jeu vidéo. Et un de mes objectifs qui est un peu énorme, c'est de pouvoir leur redonner un nom. Et voilà.
Donc, en fait, tu as une espèce de double focale. Tu pars à la fois de ce fonds d'archives, du coup, et également tu poursuis un peu de ton côté des recherches pour éclairer certains pans de l'histoire qui ont été un peu oubliés, c'est ça ?
Oui, enfin, j'ai plusieurs casquettes. Hein. C'est, d'une part, je fais le fonds d'archives jeux vidéo japonais, mais je m'occupe aussi de fonds d'archives qui sont en français. J'ai aussi, je m'occupe, il y en a aussi en allemand, enfin, mais la plus grosse part, c'est en japonais. Et je fais aussi de l'organiser, j'organise aussi une double journée d'études sur l'archivage de jeux vidéo, dont un des points, c'est quel regard on peut porter sur une archive de jeux vidéo, qu'est-ce que ça fait de poser des questions féministes, intersectionnelles à ces fonds, qu'est-ce qu'on peut en tirer, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire avec des objets qui ne sont pas féministes au premier abord. Et du coup, le fait d'organiser cette double journée d'études, ça me permet aussi de faire de la recherche pour ma thèse, et en plus de gagner de l'expérience.
Oui, on en avait un peu discuté en préparant cet entretien, mais finalement, c'est quoi un jeu vidéo féministe ? En tout cas, toi, quels sont les critères que tu retiens dans le cadre de ton travail de recherche ?
C'est un peu compliqué de donner des critères comme ça, surtout que je suis en début de projet, mais on se demande, mais qu'est-ce qu'un jeu féministe ? Est-ce que c'est un jeu qui forcément va avoir des femmes et des minorités de genre derrière ? Je suis pas sûre. Car ce n'est pas parce qu'il y a une femme derrière une œuvre qu'elle est forcément féministe, et on le sait bien, il y a la misogynie intériorisée, de la LGBT-phobie intériorisée, du racisme, enfin, etc. Je pense que c'est d'une part des jeux qui peuvent donner des thèmes qui va nous permettre d'avancer et tout ça. Mais je pourrais pas te répondre par rapport à qu'est-ce qu'un jeu féministe comme ça.
D'ailleurs, on l'a pas précisé, mais tu l'as un peu dit, mais ton travail de recherche, il a commencé très récemment.
Oui, en septembre, j'ai rendu mon mémoire de master, je l'ai rendu le 16 août et j'ai été diplômée le 13 septembre et j'ai commencé le 16 septembre à travailler dessus et je suis totalement sur un autre champ de recherche.
Et donc là, devant toi, tu as quelques bonnes années de travail ambitieux devant toi.
Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment passionnant et c'est... En fait, ce qui est très compliqué, c'est d'une part de changer de champ de recherche et aussi, parce que en fait, je suis encore assez néophyte dans la recherche, même si j'ai quand même travaillé pendant 3 ans sur ce mémoire. Mais ce qui est compliqué, c'est surtout de m'introduire dans les game studies. Je suis très, 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 enfin, très débutante. Non, je dirais pas ça. Mais je pense que j'ai beaucoup de choses à apprendre et je suis extrêmement bien entourée au Liège Game Lab et ils m'ont permis quand même de partir sur des bases où ils m'ont dit voilà qu'est-ce qu'il faut savoir et voilà comment ça marche et voilà je suis très chanceuse de ce côté-là.
Justement, est-ce que ton champ de recherche est nouveau ou en tout cas est-ce que tu as des inspirations aussi que tu as pu aller chercher ailleurs. En tout cas, est-ce qu'une archive féministe du jeu vidéo, ça existe aujourd'hui sous une quelconque forme? Est-ce que ça a déjà été tenté? Est-ce qu'il y a des projets qui peuvent t'inspirer dans le cadre de ton propre travail?
Ouais, mais on en avait parlé et je t'avais répondu que c'est quelque chose qu'on m'avait dit en début de mes études de philosophie, c'est que quand on pense avoir inventé quelque chose, c'est faux, il y a toujours quelqu'un qui y a pensé avant. Et au début, quand j'ai commencé à faire des recherches sur ça, je me suis dit, mais en fait, il n'y a jamais personne qui a pensé à ça, je suis vachement originale, enfin, je ne me sentais plus, Et en même temps, c'était un peu du désespoir parce que je pouvais pas m'aider d'autres personnes. Et en fait, ça a été très compliqué de trouver des personnes qui ont travaillé sur ça. Et j'en ai trouvé hein, des personnes qui ont commencé à parler et qui ont écrit un peu sur ça. Je pense, d'une part, j'ai trouvé, il y a quelques temps, il y avait un article de Carly Kokurek dans une revue de Museum of Play aux États-Unis qui parlait de créer une histoire du jeu vidéo féministe et qui mettait en avant, il me semble, trois créatrices du jeu vidéo. Il y a aussi Caroline Behm et Charlotte Courtois que il me semble vous avez déjà accueillis. Qui parlait de cartographier les jeux vidéo pornographiques et tout ça. Je suis très fan du travail de Charlotte Courtois et je vais la rencontrer. Elle va participer à ma journée d'études. Il y a aussi Adrienne Chaud qui avait commencé une archive LGBTQIA+. Il y a Samantha Blackmon et Thea Andrea Russworm qui ont créé une Black Game Archive. Et je pense que c'est important de les citer. Car je parle d'un... Mon projet, c'est une archive féministe de jeux vidéo, mais d'un point de vue intersectionnel. Donc, il est important de parler de ces archives LGBTQIA+, et Black Game Archive, même si je serais, je pense, incapable de faire une archive qui va parler de personnes LGBTQIA+, et de jeux noir, je sais pas comment le traduire en français, mais en tout cas, je m'inspire de leurs travaux.
Tu parlais d'invisibilisation tout à l'heure. Dans le cadre de ton travail, il y a aussi parfois des petites découvertes que tu fais, ou en tout cas des histoires que tu retrouves. Il y a notamment un exemple à Capcom. Est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, dans les années 80... dans les années 70-80 au Japon, il y a eu une sorte de bulle économique où, je ne sais plus exactement pourquoi, mais le Japon a poussé les entreprises à engager des femmes. Et cela a permis qu'à Capcom, il y ait une équipe audio de compositrices et de sound designers à presque à 100% féminine. On peut, il y a par exemple Yoko Shimomura qu'on connaît assez bien. Enfin, moi je l'ai découverte comme ça, mais voilà. Et en fait, ce qui se passait à ce moment-là, c'est que Capcom avait une politique de créditation assez hasardeuse. Ça veut dire que chaque créatrice avait un pseudo. Cependant, ce pseudo n'était pas attribué à une seule créatrice. Il était d'un jeu à l'autre. Il pouvait changer. C'est-à-dire que Yoko Shimomura pouvait avoir un pseudo, et puis dans un autre jeu, elle allait avoir un pseudo d'une de ses collègues. Et ce qui fait que quand Yael ont quitté l'entreprise, elle n'avait aucune preuve à un certain moment qu'elles ont travaillé sur un jeu. Mais c'est un peu le revers de la médaille, mais ce qui est très très chouette, c'est que dans cette période où il y avait une équipe presque à 100% féminine, il y a eu une sorte de bulle un peu utopique, où en fait ces femmes, elles étaient amies, elles se tiraient vers le haut, il y avait des je dirais lead composer, je sais plus exactement le nom, mais en fait c'était pas un rapport très il n'y avait pas, de ce que j'en ai lu, il n'y avait pas trop de problèmes. Elles partaient en vacances ensemble, elles partaient après le boulot pour boire des coups et tout ça. Et en fait, à un moment donné, la bulle économique pour les femmes a un peu switch. C'est-à-dire que le Japon n'essayait plus d'aider réellement les femmes. Et quand elles partaient en congé maternité ou pour d'autres raisons, elles ont été remplacées petit à petit par des hommes. Car il y a cette vision au Japon que quand les femmes se marient ou qu'elles tombent enceintes, soit elles restent à mi-temps, soit elles arrêtent totalement de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Et donc, à partir de là, l'équipe a été remplacée petit à petit par des hommes et l'ambiance a totalement changé. Et j'ai appris ces histoires grâce à un article de Mélanie Fritsch et aussi de Brooke McCorkle Okazaki dans le livre Video Game Music and Sound. Elle a écrit un livre, un chapitre qui s'appelle Onna no Jidai, Woman in Game Sound in 1980 Japan. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est Onna no Jidai, ça veut dire l'ère des femmes. Et je pense que c'est... quand je parle de bulle utopiste féministe, ça me fait un peu penser à ça, l'ère des femmes. Et je parle de utopie dans le sens que on a besoin d'histoires pareilles pour pouvoir les répéter et avoir et avancer en tout cas. Et pas en mode ça ne va jamais arriver.
Donc enfin, il n'y a pas que les jeux vidéo féministes que tu souhaites archiver, il y a aussi ces histoires-là qui,
oui,
qui permettent de montrer à quel point les travailleuses du jeu vidéo ont été importantes il y a bien des années de cela.
Mais j'aimerais bien retrouver des histoires en fait, des histoires de femmes qui ont travaillé et pour pouvoir les mettre en avant. Peut-être que c'est très facile de les trouver, enfin pas très facile, je pense pas, mais c'est plutôt pouvoir les valoriser. Il y a aussi quelques jours, j'ai appris aussi que Sega aussi avait eu une politique similaire et qu'il y avait Lyoko Kodama, mais je ne suis pas trop sûr de cette info.
Tu parlais en tout début d'entretien, je voulais revenir là-dessus, sur ce fonds d'archives sur lequel tu t'appuies beaucoup dans le cadre de ton travail. C'est 5000 jeux vidéo, c'est ça ?
Oui, un peu moins de 5000 jeux vidéo qui nous ont été prêtés à long terme par l'université Lituanienne. Mais l'histoire est un peu particulière. En fait, c'est un fonds de jeux vidéo qui a été... formé par Martin Roth, qui va potentiellement être mon co-directeur de thèse, si tout se passe bien. Et en fait, il l'a constitué à l'université de Leipzig, et il a déménagé il y a 7-8 ans au Japon. Et en fait, il a été pas possible pour lui de reprendre plus de moins de 5000 jeux vidéo et 18 consoles, enfin du hardware, dans sa valise. Et comme on ne savait plus quoi faire de ces jeux vidéo, il y a l'université de Liège, en tout cas Björn Olav Dozo avec le Liège Game Lab, qui ont proposé qu'on s'en occupe, qu'on fasse une valorisation de ce fonds de jeux vidéo. Et il y a eu un accord de prêt à long terme, si pas définitif, qui a été signé entre la nouvelle université de Martin Roth, qui est l'université de Litsumeikan, qui est une université à Kyoto, que j'ai eu la chance de visiter en décembre dernier, et j'ai pu rencontrer Martin Roth. Et donc voilà, la condition de ce prêt, c'est qu'on valorise, et c'est pour ça que j'ai été engagée, et voilà.
Il y a aussi cette association dont on a parlé au tout début en te présentant, Pixiel, est-ce que tu veux nous en dire deux mots ?
Oui, bien sûr. Pixiel, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. C'est en fait... pour parler de notre historique, en fait, les personnes avec qui j'ai cofondé cette association sont Stéphanie Merckx, Faustine Grosjean et Camille, que je ne dirai pas son nom de famille parce qu'elle ne veut pas qu'on le dise. On a fait de la radio ensemble pendant un an. En tout cas, moi, je les ai rejoints plus tard pendant un an. Elles ont fait de la radio pendant deux ans ensemble et moi, je suis arrivée à mi-parcours. Et lors de cette année, on est tombé un peu dans une fracture où on ne se retrouvait plus dans les mêmes valeurs avec les autres personnes qui faisaient partie de cette émission. Et donc, on a décidé de créer de notre côté un collectif pour pouvoir prendre notre place dans le game, comme on a dit au début, dans le monde du jeu vidéo. Et la question s'est posée, est-ce qu'on continue via le format radio où on change ? Et moi, j'ai proposé Twitch, qui est un des premiers pas. Et du coup, on stream depuis janvier 2024. Et en fait, c'est surtout une envie de pouvoir prendre notre place, de pouvoir rendre plus inclusif le gaming et de pouvoir aussi se réunir en collectif pour pouvoir avoir la force de faire ce qu'on fait, de prendre notre place dans le monde du jeu vidéo, car c'est pas un secret, il y a beaucoup d'harcèlement, c'est très compliqué moralement et tout ça. Et en fait, c'était un peu de se dire le contre-pied, on est ensemble, on a déjà fait un projet ensemble, et si jamais il y a un problème, on le fait. Et en fait, du coup, maintenant, on est constitué en association depuis quelques mois. Et le but, c'est de pouvoir faire de la médiation culturelle, de l'animation dans des écoles. On a Stéphanie qui est animatrice, médiatrice culturelle, et du coup, elle prépare des animations dans des écoles pour sensibiliser grâce aux jeux vidéo. Et on a d'autres projets, mais c'est pas encore assez constitué pour en parler. Et en fait, ce qu'on fait, ce qu'on stream, c'est bien souvent on stream le lundi et jeudi, mais ça peut changer. On fait un jeudi papote tous les un jeudi sur deux, où on parle d'un thème et on essaye de l'associer dans le jeu vidéo, mais en fait, en ce moment, on dévie un peu et en fait, on parle un peu de ce qui est ressorti dans le chat avec nos viewers et dans les conversations avant, ou de choses qui se passent dans notre vie. Et en ce qui concerne les jeux auxquels on joue, on se disait de base jouer à des jeux qui sont... on dirait féministes, ou alors qui sont plutôt indés, qui sont un peu militants, ou qui ont des personnes avec des valeurs qui nous correspondent derrière, mais on ne se limite plus vraiment à ça, parce qu'on se dit qu'on a besoin aussi de prendre nos places dans des jeux qui sont dits toxiques, comme League of Legends. On a Faustine dans le tas, qui est notre experte League of Legends, qui a écrit un mémoire de master sur ça. Et donc on stream sur ça, on essaye. En fait, c'est aussi une manière de pouvoir, comme je disais juste avant, c'est de pouvoir nous réunir dans des jeux toxiques et pour pouvoir faire face à l'harcèlement qu'on pourrait avoir et tout ça. Et là, on va lancer au mois d'avril, on va découvrir des FPS, des jeux extrêmement toxiques, parce qu'il faut parler, et ça, c'est quelque chose qui me fait très peur. Mais vu qu'on sera ensemble, ce sera d'autant plus chouette. Et voilà.
Ah, c'est une super initiative, un deuxième beau projet, en plus de ton projet de recherche. On continue d'en parler avec toi, Anna-Maria Trefois, juste après la deuxième pause musicale. On écoute Cass Team, composé par Manaka Katoaka et Yasuaki Iwata pour l'OST de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Vous écoutez Une Heure et des Pixels sur Radio Campus Paris. On retrouve Anna-Maria Trefois, doctorante au Liège Game Lab, et le reste de l'équipe pour la suite de l'entretien. Juste avant ça, Anna-Maria, pourquoi avoir choisi cette musique ?
J'ai choisi cette musique parce que c'est une musique qui me procure beaucoup d'émotions, qui me procure beaucoup de nostalgie. Quand je me souviens quand j'ai croisé Cass dans Breath of the Wild il y a quelques années, c'est un moment où je me suis arrêtée dans le jeu et j'ai pris le temps de juste observer, écouter et voilà. Et c'est, je pense, c'est une des seules fois que ça m'est réellement arrivé dans un jeu vidéo. Et en plus, une des compositrice de cette musique est une femme, Manaka Kataoka, et Yasuaki Iwata est un homme, mais voilà.
Je crois que tu aurais pu mettre n'importe quel OST de Breath of the Wild, ça aurait été beau. Est-ce que vous avez une question pour Anna-Maria? Une ou plusieurs questions, d'ailleurs. Tizona, tu voulais poser une question.
Premièrement, merci pour cet échange, c'est super intéressant, j'ai appris plein de choses. Alors c'est pas vraiment une question, mais c'est un petit peu une prise de conscience que j'ai eue. Tu as parlé de Yoko Shimomura, qui est une compositrice pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et d'admiration. En 2015, elle avait été interviewée, et lorsque on lui avait demandé quelles étaient les compositrices pour qui elle avait le plus d'admiration, qui l'avait inspirée, elle avait cité Michiko Naruke, qui a travaillé surtout sur la série des Wild Arms, et Manami Matsumae, qui a travaillé sur pas mal de jeux, mais en fait c'est deux compositrices qui étaient très actives dans les années autour des années 90, donc dont tu as parlé, et une des pistes de réponse était justement de dire qu'en fait ça avait été ces modèles, et justement de dire que ça avait été des modèles aussi féminines, Et du coup, je trouve que ça fait... Enfin, j'ai cette prise de conscience de me dire que ça fait d'autant plus sens avec, avec ce dont tu viens de parler, de cette forme de bulle qu'il y avait à cette époque, qui pouvait peut-être être quelque chose d'assez favorable pour des femmes, notamment au Japon, puisque c'est un contexte dans lequel tu situes ce dont tu as parlé. Donc voilà, je trouve que c'était intéressant, et maintenant je comprends quelques années plus tard certains éléments.
C'est incroyable, je sais pas si j'ai croisé ces noms, Manami Matsumae et l'autre compositrice, j'ai oublié son nom. Oui, Michiko Naruke. Ben, je regarderai ça, c'est très intéressant. Merci pour ton retour. Et il est possible que j'ai peut-être vu ce nom dans l'article On Nano Jidai, et il y a plusieurs personnes qui parlent de cette bulle qu'il y a eu, et c'est un exemple qui est assez repris. Donc voilà.
Si jamais, est-ce qu'il y a une question Enfin, Queen, je ne savais pas si c'était une question ou pas, le smiley que tu avais mis.
Non, c'est juste parce que tu parlais de faire des FPS et des MOBA et des jeux multi entre meufs sûres et au global. Et ça m'a fait penser à cette trend TikTok. Je ne sais pas si tu en as. Je ne sais pas si tu es sur TikTok. D'ailleurs, quels sont tes réseaux, Anna-Maria? Et il y a une trend comme ça de vidéos de meufs qui stream ou qui s'enregistrent, en tout cas. Et elles se retrouvent dans des jeux réputés pour être toxiques et plein de mecs insupportables. Et en fait, elles réalisent que les autres personnes dans l'équipe sont aussi des meufs ou des minorités. Et du coup, elles sont en mode... Quoi, mais toi aussi t'es une meuf, mais c'est trop cool, mais on est entre meufs et minorités, mais c'est trop bien. Et puis après elles sont trop heureuses et elles vivent leur meilleure vie à jouer aux jeux vidéo, et ça me fait des respirations incroyables. J'adore ces moments là voilà. Du coup, ma question au global, ce serait plutôt c'est quoi tes réseaux, Anna-Maria? Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail?
D'une part, je connais cette trend. je trouve ça vraiment, vraiment très, 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 très chouette. Et je pense que c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé, parce que je joue moins maintenant, mais quand je jouais beaucoup à League of Legends, où je me rends compte, je joue à des carries, et je me suis rendu compte que mon support était une meuf, la partie était incroyable. Enfin, on s'est trop bien amusé. Mais du coup, mes réseaux, TikTok, j'y passe beaucoup trop de temps. en tout cas, je poste rien sur ça, donc c'est pas intéressant. Je suis sur Blue Sky. On peut me retrouver avec Anna-Maria autrefois. Je suis sur Instagram sous le nom de Alondra Pixie, pour faire un petit... clin d'œil à Pixiel. Et sinon, je réfléchis. Pixiel sur Twitch, qu'on peut me retrouver, on va dire, quelques fois par mois au moins, parce que je suis pas la seule à streamer. Donc voilà.
Merci beaucoup, Anna-Maria Trefois, d'avoir été notre invitée dans Une Heure et des Pixels aujourd'hui. Et puis, n'hésite pas à venir nous donner des nouvelles. Pour un peu nous présenter les fruits de ton travail à l'avenir.
Très bien.
Ben, merci beaucoup en tout cas, merci Mehdi et merci Anna-Maria, et j'espère que tu réalises à quel point ton travail est précieux. J'en profite pour remercier aussi le Liège Game Lab d'exister et d'être aussi actif sur internet. On parlait un peu gentiment tout à l'heure des sources de financement difficiles pour la recherche en France. J'ai l'impression que vous, en tout cas ce que vous incarnez avec le Liège Game Lab, c'est vraiment... une sorte de lueur d'espoir. Et une lueur d'espoir, c'est ce qu'a été le jeu dont va nous parler Marion pour un de ses petits patients. Le nom de ce titre, c'est Blanc ou Blanque, selon comment on le prononce. Marion, c'est à toi.
Merci. Alors moi, effectivement, je vais vous parler du jeu. Je vais l'appeler Blanc, hein, à la française. Ouais. Ça sera un petit peu plus simple. Donc j'ai choisi de vous parler de ce jeu qui est développé par le studio français Casus Ludi, édité par Gearbox Publishing et qui est disponible depuis 2 ans environ, puisqu'il est sorti en février 2023. On peut y jouer sur Nintendo Switch mais aussi sur PC via la plateforme Steam. Dans ce jeu, on retrouve dès le tout début un faon et un louveteau qui sont surpris par une tempête de neige, qui se retrouvent tout seuls, mais quand même, au début du jeu et puis tout au long du jeu, toujours à deux, ensemble. Au départ, ils sont chacun de leur côté, séparés physiquement par une rivière enneigée ou des fossés enneigés. Ils doivent avancer en parallèle, chacun de leur côté. Donc, même si on essaie de les faire se rejoindre, c'est impossible au niveau du gameplay. Mais à partir d'un moment, quand on évolue dans le jeu, ils vont pouvoir être côte à côte, même si toutes leurs interactions ne sont pas forcément possibles. Par exemple, comme j'ai pu voir un petit garçon qui voulait que le faon porte le louveteau, bah ça, par exemple, c'est pas possible. Au fil de ce périple, on rencontre une variété d'obstacles, des sortes de casse-têtes, au cours desquels la collaboration des deux animaux sera toujours nécessaire. Plus on progresse, plus on va découvrir leur complémentarité. Ces deux animaux, sortes de compagnons improbables, hein, un loup et une biche, se lancent à la recherche d'autres biches et d'autres loups. Ils vont devoir se rejoindre et faire équipe pour retourner auprès de leur famille. En tout cas, on peut imaginer qu'ils cherchent à rejoindre leur famille. Ainsi, Blanc, c'est l'histoire de rencontre entre les deux petits animaux, mais aussi à la quête de leurs ancêtres, à la quête de leur famille. C'est au travers de sortes de visions, un peu comme des souvenirs, que l'on retrouve les traces du passage des familles dans la neige et qu'on comprend qu'il faut les suivre. Blanc est un jeu narratif que l'on peut jouer de différentes manières. On peut jouer seul ou à deux sur un même écran ou encore en ligne. En solo, chaque Joy-Con ou chaque côté de la manette va être attribué à un des deux animaux. La partie gauche pour le louveteau par exemple et la droite pour le faon ou inversement. C'est un procédé qui bien évidemment rappelle aux joueurs le jeu Brother Tale of Two Sons de Joseph Fares et qui entraîne de fait une jouabilité très particulière quand on est seul puisqu'on doit avoir une certaine réflexion et dextérité pour pouvoir différencier nos deux mains et la façon de jouer avec chaque personnage. Et à deux, on va incarner chacun un de ces deux animaux, créant une complicité nécessaire. Ce jeu fait partie de jeux qui ont pour moi de grands échos sensoriels du fait de leur facture artistique. Les tableaux du jeu sont ici d'une blancheur immaculée, hein, d'où le fameux blanc, contrastés par des touches de noir. Ce sont des paysages dessinés sur papier en 2D puis transposés en 3D. Les personnages, le petit loup et le faon sont également en noir et blanc. C'est un jeu très poétique et métaphorique ainsi que silencieux. On a vraiment cette sensation, c'est pour ça que je dis que c'est très sensoriel. C'est un peu comme effectivement quand on est sous la neige dans un paysage enneigé où même si on marche, même s'il y a des choses qui se passent, il n'y a pas vraiment beaucoup de bruit. Ce jeu, il est seulement interrompu par des bruitages légers qui participent vraiment à l'immersion dans l'histoire. La musique est assez discrète, douce, mais elle annonce des événements qui font avancer l'histoire. Elle accompagne par exemple la découverte de nouveaux lieux. Il arrive qu'il y ait aussi des moments sans aucun bruit, des moments de silence, dans lesquels on sent que malgré la présence de l'autre animal, on est quand même un peu seul au monde. C'est assez efficace, très prenant, voire parfois un peu stressant. Avec ce jeu, j'ai pu travailler avec un petit garçon de 7 ans qui venait de perdre son père dans un tragique accident. Depuis, cet enfant ne pensait qu'à mourir pour le rejoindre et les souvenirs de son père sont très douloureux. J'ai pensé à ce jeu pour accompagner cet enfant et en passant par cette médiation, nous avons pu parler de l'attachement à ce père, créer des souvenirs malgré l'absence et s'appuyer sur le lien qui a existé entre eux pendant ces quelques années. L'attachement entre un enfant et son parent, ça peut se comprendre par le lien affectif qui existe entre l'enfant et la personne qui s'occupe de lui, qui va l'élever, qui va lui donner des soins, qui le fait grandir. C'est un lien qui se construit au fil des contacts et des interactions chaque jour entre cette personne et l'enfant. C'est un lien qui, pour tout le monde, est vraiment fondamental, notamment pendant des moments ou des manifestations d'émotions fortes, de détresse ou encore d'inquiétude qui se manifestent chez l'enfant. L'enfant, en général, va alors pouvoir s'appuyer sur ce lien affectif qu'on appelle d'attachement pour se sentir en sécurité. Et c'est parce que ce lien d'attachement se développe que l'enfant va pouvoir quitter justement le giron de la personne qui s'occupe de lui pour pouvoir explorer le monde, avoir confiance dans les autres et grandir. Ici, on comprend bien que suite à la perte réelle de son père, ce petit garçon qui se sentait en grande insécurité renvoyé vraiment à des choses incompréhensibles pour lui et très difficiles. Avec Blanc, ce jeu aux tonalités calmes, tranquilles, qui alterne entre des séparations, le fait d'être loin de l'autre animal à certains moments, le fait d'être loin du troupeau, mais aussi de la réassurance, ne pas être seul, observer, retrouver des traces dans la neige, ce petit garçon a pu métaphoriser la perte. Il est vite rentré dans la peau du petit loup qu'il a choisi d'incarner, me laissant aux commandes du petit fan. Très vite, voyant les empreintes, les premières empreintes dans la neige, et suite à la vidéo qui montre d'autres animaux, cette sorte de vision, de souvenir, il me dit qu'il nous faut partir chercher nos parents, qui sont vraiment partis trop loin, et qu'il faudrait d'ailleurs qu'ils nous attendent. À chaque fois, on suit les traces, et puis il me dit qu'ils sont encore partis un peu plus loin. La quête est alors engagée, nous amenant à la découverte coopérante et sécurisante pour lui. Une séance plus tard, par exemple, alors que j'allume la console, il me dit avec un grand sourire « Tu te souviens, j'ai vu mon père ?» Et il m'explique alors, calmement, sans pleurs, qu'on va partir à la quête du père du petit Louveteau. Pendant que nous jouons dans ce jeu calme, il s'autorise des va-et-vient entre l'émotion du petit loup et les siennes, entre une narration qui est rattachée au père loup ou à son propre père. La tranquillité et la sécurité de ce jeu collaboratif, l'ambiance, le blanc, qui renvoie justement aux relations précoces, aux relations du tout petit, rend cela possible. Ainsi, dans l'histoire de Blanc, comme finalement dans beaucoup de jeux indés, il n'y a pas de narration, pas d'histoire racontée, pas de quête donnée précisément. Dans ce jeu, les animaux communiquent simplement par quelques jappements pour s'interpeller entre eux, et il manifeste visuellement certaines expressions que l'on peut interpréter, par exemple la détresse, la joie, l'impatience, etc. Ainsi, on peut vraiment s'imaginer n'importe quelle histoire, comme l'a rêvé ce petit garçon affecté. En effet, ce jeu est plein d'émotions, à la fois attendrissant dès le départ par la présence de ces deux petits animaux égarés dans la neige, leur rencontre réconforte. On peut s'inquiéter pour eux, on peut être inquiet aussi pour leur famille, s'interroger, mais quand même se rassurer de ne pas être tout seul dans cette situation. Tout le jeu se déroule calmement, tranquillement. On peut découvrir les environnements aussi longtemps qu'on le souhaite, on peut se promener dans la neige, on peut revenir en arrière, à condition d'être les deux. Donc on a ici un gameplay qui s'apprend très simplement avec des aides qui sont répétées tout au long du jeu. C'est un jeu qui est donc très sensible et que l'on peut facilement jouer et que je conseille avec des enfants dès 6 ans.
C'est pas moi qui pleure, c'est vous qui pleurez. Et merci beaucoup pour cette chronique et cette découverte de jeu. Alors, personnellement, je le connaissais. Je connais aussi l'équipe qui est derrière. Et je pense que ça leur fera énormément plaisir d'écouter ce que tu avais à dire dessus. Voilà, c'était très très beau. Merci beaucoup pour ce petit voyage.
Merci.
Dans le même genre de jeu, tu as cité Brothers. Et il y en a un qui est moins connu, qui s'appelle Never Alone, et qui est développé avec une communauté nord-amérindienne de l'Alaska, les Inupiat. Et c'est également l'histoire d'un enfant avec un esprit renard blanc, ce genre de choses, du territoire local, quoi. Et qui va revivre une histoire comme ça de séparation, retrouvailles, et enfin c'est très très émouvant. C'est vraiment des jeux qui fonctionnent très bien et qui fonctionnent très bien avec les enfants, et j'imagine aussi les enfants qui ont connu la douleur d'une perte de ce genre là on est sur une émission très joyeuse, hein, vraiment. Est-ce que quelqu'un aurait une bonne nouvelle, s'il vous plaît? Quelque chose de chouette.
Désolée, je s'appelle Morale, mais justement, enfin, il y a quelque chose qui est très sensible, mais qui permet d'aller vers le vivant. Donc, on ressort pas triste en jouant ça, en fait.
Oui. Et c'est pas une fin en soi, quoi. C'est vraiment un retour vers la vie, comme tu dis. Ouais. Hein. Et bah, c'est sur cette belle phrase que je vais passer au jeu. Ça va être compliqué là de faire une transition. Maintenant qu'on a bien chialé, je vous propose de rire un petit peu. Alors, le jeu, avec Lazare, on a réfléchi à comment vous faire un peu galérer, mais pas trop quand même. On est resté sur l'idée de vous faire trouver des personnages, mais pas n'importe lesquels. On va vous faire trouver des personnages qui, selon nous, selon moi surtout, nous font l'honneur et le plaisir de marave des fachos. Donc vous allez entendre un extrait musical, facile pour trouver le jeu, et après pour trouver le perso, vous allez poser des questions auxquelles je répondrai par oui ou par non. On peut y aller. Bah tu vois, je me souvenais pas que la musique du jeu c'était ça. Alors je rappelle, on parle de personnages qui combattent des fascistes, hein, en gros. Indice, ce n'est pas Sonic.
Avec quoi est-ce qu'il péta les fachos ?
Il me semble qu'il a un certain arsenal assez varié, je vérifie ça tout de suite. Nous avons des handguns, des Sturmgewehr, des Dieselkraftwerk, des Assault Rifle, des Laserkewehr, bon, j'ai fait espagnol LV2, hein, vous m'excuserez, des Maschinenpistol et des Laserkraftwerk, ce genre de choses-là.
Est-ce que c'est William, dont j'ignore le nom de famille, comme Wolfenstein ?
Mais bravo ! Beau Tizona, félicitations, c'était effectivement William, son nom de famille c'est William Blaskovich, William Joseph Blaskovich d'ailleurs, de Wolfenstein, de la série Wolfenstein. Bravo à toi.
Chose qui est pas de me rappeler de son nom en fait.
Ouais, en fait il se fait appeler tout le temps Blaskovich je crois dans le... Je sais pas comment tu t'es rappelé de William même.
Bah, c'était probablement plus facile à retenir.
Ouais sûrement. C'est Willy. Bah bravo à toi. Jeu suivant. Ah, c'est bien, t'as pas choisi la musique la plus facile, j'apprécie.
Est-ce que c'est récent ?
C'est un jeu plutôt récent.
Récent de... Il y a un an, deux ans, ou un peu plus que ça ?
Un peu moins que ça.
Parce que récemment, où tu tapes des nazis, il y a Indiana Jones.
Bravo ! Ah, j'aurais pas dû m'emballer si vite, c'est quel personnage ? Ça va être dur.
Jones ou Indiana.
Bravo ! Effectivement. Je vais pas m'en sortir vivante de cette émission. Effectivement, c'était le personnage à trouver, c'était Indiana Jones du jeu Indiana Jones et j'ai oublié And the Last Something. Vraiment aucun travail.
Le jeu hype notamment pour ça en fait. Bon, personnellement.
Oui, c'est clair, c'est parce qu'en ce moment on a envie de taper des nazis. Je sais pas pourquoi. Le cercle ancien, voilà. Dernier personnage. Jusqu'ici, attention, Tizona va nous faire un full ace quoi. C'est vraiment une partie entière. Gagné par Tizona. Alors là, vraiment, ça devrait aller très très vite.
Final Fantasy VII.
Mm-hmm. Quel personnage ?
C'est le thème du jeu.
Oui, mais quel personnage ? Il y en a plusieurs.
Cloud ?
Non ! Ha ! Tu pensais gagner tes trois jeux d'affilée ? Eh ben non !
Bah, je vais faire tout le casting, ça ne sert à rien. Zach ?
Non, poser des questions plutôt.
Ok. Est-ce que c'est un homme ?
Oui, a priori, oui.
Tizona, je te laisse le boulevard, moi j'ai pas fait FF7.
Quoi ?
Pardon.
Comment ? Je vais mourir en fait.
Je sais pas, mais Zach, non ?
Non. Anna Maria, des questions peut-être pour trouver le...
Aucune idée, j'ai pas joué à Final Fantasy.
Pour moi, c'est vraiment le thème du jeu, donc j'ai du mal à associer ça à un perso en particulier.
Il y a pas mal d'hommes dans Final Fantasy, c'est
oui.
Vrai.
Oui.
Mais, J'aurais tendance
plus
à
énervé,
dire...
c'est, le plus énervé, c'est Barrett, mais...
Bravo. Bravo, Tizona. C'était effectivement Barrett, hein, le leader du groupe de rebelles.
D'Avalanche.
Et ouais. Oui, voilà, d'Avalanche. Qui embarque le groupe donc qui embarque notre héros Cloud dans toute une aventure qui ira bien au-delà de ses attentes. Bravo, c'était un all-win pour Tizona quoi, incroyable.
J'ai un bac plus 12 en tapé
des nazis. Ouais, c'est ça. Ouais. On voit quand tu passes tes fins de soirée quoi. Tiens, si j'allais taper des nazis. Mais c'est une très bonne activité de distraction. Hein. Enfin, franchement, j'apprécie. J'apprécie et j'approuve. Dans les jeux vidéo, ailleurs, après vous êtes libre et consentant. Il y a Lazare qui est en train d'écrire. Refais cette phrase, Camille. Tu peux pas dire ça. On peut pas être diffusé. Eh bien, écoutez, c'est sur ces belles paroles de frapper des nazis à toute heure et à tout moment de la journée qu'on va conclure cette émission de Une heure et des pixels. C'est une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous remercions notre invité Anna Maria, les chroniques heureuses Ingrid, Marion, Mehdi et Léa, Vincent pour la sélection musicale et évidemment Lazare pour l'organisation. Moins pour le conducteur. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, de partager nos publications sur les réseaux sociaux et de parler de nous autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur notre Ko-fi, cela nous permettra de continuer à produire nos programmes et à vous proposer toujours plus de points de vue sur le jeu vidéo. Au revoir à tous, très bonne soirée et merci, à la prochaine !